rejoint, ça rejoindra pas mal de questions dites existentielles.
Oh là là, je vais pas aller là, je vais pas aller jusqu'à l'existentiel.
Je vais laisser la parole à Dominique Oguero et je vous souhaite une bonne soirée.
Ah, comment ça marche?
C'est allumé.
Bon. C'est allumé? Oui. Vous m'entendez?
Il est éteint. Il a bien éteint.
Pousse vers le haut. Voilà.
Et là, vous m'entendez? Ah oui. Ben, bonsoir et merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence qui est en fait la troisième qui est sur le même sujet en quelque sorte. C'est une trilogie.
Je crois qu'il faudrait mieux le sang vie. Le sang est meilleur.
Tu prends ce petit détail, celui-là, qui n'est pas de fait là.
On a essayé d'enlever le
résultat. Tu poses ça, ça.
C'est dangereux, les fils. Hein. Bon. Donc, je disais que... C'est mieux ? Alors, je recommence. Bonsoir, tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux. Et je disais que c'était la dernière partie d'une trilogie que j'ai commencée l'année dernière. Je vous ai parlé des années folles de la physique pour vous introduire la physique quantique, donc dans le domaine, le monde de l'infiniment petit. La deuxième conférence portait toujours sur l'infiniment petit, c'est-à-dire la découverte du boson de Higgs, qu'on devrait appeler le boson H. Et cette fois-ci, on va essayer de relier la physique microscopique et la physique macroscopique dans le cadre de la relativité générale. Donc, je vais parler que de deux choses en cosmologie, parce qu'il y a des tas d'autres choses, et vous le verrez à la fin, sur lesquelles on peut discuter, mais je ne parlerai que du commencement et des trous noirs, c'est-à-dire deux singularités qui se trouvent être dans la relativité générale. Donc la cosmologie, c'est une branche de l'astrophysique qui étudie l'origine, la nature, la structure et l'évolution de l'univers. Alors, pour commencer, on va vous donner quelques ordres de grandeur. La Terre est toute petite, elle fait 6400 km de rayon. Le Soleil, comme vous pouvez le voir ici, il est 330 000 fois la masse de la Terre et son rayon est 100 fois celui de la Terre. Mais il y a d'autres planètes encore plus importantes. Nous sommes dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée et jusqu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e, on pensait qu'il n'y avait qu'une galaxie, cette Voie lactée. Il se trouve que dans cette Voie lactée, il y a environ 200 milliards de planètes et d'étoiles, et il y a autant de galaxies, c'est-à-dire qu'il y a aussi de l'ordre de 200 milliards de galaxies dans l'univers. Donc vous voyez que ça fait quelque chose d'énorme. Alors, facile, le système solaire avec ses 9 planètes, Jupiter est la plus grosse, et elle est toute petite par rapport au Soleil, et la Terre est encore plus petite, elle se trouve ici. Donc vous voyez qu'on n'est pas grand-chose dans cet univers. Et le Soleil lui-même n'est pas grand-chose, parce que vous le trouvez ici, et vous avez des étoiles qui sont bien plus importantes que lui. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a eu en gros trois grosses révolutions, en gros trois grosses, c'est normal, pour arriver à avoir une connaissance à peu près correcte de l'univers. Alors, la première révolution, elle est due à Galilée, dans les années 1600, qui a fait la première expérience de pensée concernant la chute des corps. Il a démontré uniquement par un raisonnement que la masse des corps, la chute des corps ne dépendait pas de leur masse. Ensuite, il y a Isaac Newton, dans les années 1700, c'est-à-dire une centaine d'années après, qui lui a réussi à regrouper ce qu'avait trouvé Galilée et ce qu'avait trouvé Kepler dans l'espace, et il a développé sa théorie de l'attraction universelle, qui est toujours utilisée aujourd'hui, bien sûr. Pour lui, la lumière était constituée de particules, alors que d'autres de son époque, des contemporains comme Huygens, qui est un Hollandais, pensaient que la lumière était constituée d'ondes. Et pendant tout le 19e siècle, tantôt la lumière était considérée comme une particule, tantôt une onde. Et ce n'est que dans les années 1920-1925 qu'on a compris qu'il y avait une dualité entre l'onde et la particule. La troisième révolution, la plus récente, c'est celle d'Albert Einstein, qui en 1905 a écrit quatre articles très importants. Et j'ai parlé des deux premiers et du quatrième déjà, mais je me pencherai uniquement sur l'introduction de la théorie de la relativité restreinte. Ça, c'était en 1905, et il a développé tout ce qui est relativité par rapport au mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire sans prendre en compte la gravité. Il lui a fallu une dizaine d'années pour bâtir sa théorie de la gravitation. Et il a introduit donc cette gravitation dans la relativité restreinte pour transformer en relativité générale. Donc, on va revenir, bien sûr, sur tout ça. Maintenant, on va se replacer dans la position de l'observateur qui regarde le ciel. Alors, il commence par le regarder à l'œil nu. Il trouve, quand il a de bons yeux, il trouve 2 à 3 000 étoiles. Dans l'hémisphère nord, il en trouve à peu près autant dans l'hémisphère sud. Enfin, en gros, on trouve 5 à 6 000 étoiles à l'œil nu. Alors, il a essayé de développer des instruments pour voir plus loin. Alors, les premiers instruments qui ont permis de voir un peu plus le ciel, c'est Galilée, toujours le même, en 1609, qui a développé sa lunette. C'était en fait une longue vue toute bête, mais ça lui a permis déjà de voir des choses intéressantes sur la Lune. Et de même, Newton a développé un télescope dans les années 1668 qui lui a permis de faire un certain nombre d'observations. Bien. Alors, on a fait des progrès depuis cette lunette de Galilée et ce télescope de Newton. Et à la fin du 19e siècle, au début du 20e, on a construit des télescopes dignes de ce nom, comme quelques-uns dont je vous donne les noms ici. Le mont Wilson, qui est près de Los Angeles. Le mont Palomar, près de San Diego, tout ça en Californie. Ce sont des télescopes qui sont très connus, parce qu'en particulier Hubble, et j'en parlerai un peu plus tard, a fait des tas d'expérimentations qui ont permis de voir que les galaxies s'enfuyaient. Bon, ça c'est un peu historique, le mont Wilson, le mont Palomar, maintenant c'est devenu plus des musées que des observatoires qui servent pour la recherche. En revanche, vous avez des observatoires beaucoup plus récents, comme le VLT, c'est le Very Large Telescope, qui est sur un plateau en Chili, à quelque chose comme 3 ou 4 000 mètres d'altitude, pour s'affranchir des perturbations atmosphériques, et il est dirigé par l'ESO, c'est European Spatial Organization, donc qui est très active dans le domaine de l'astronomie. Vous avez d'autres télescopes comme à Hawaï, à Porto Rico, dans des endroits qui sont très sympas et qui sont surtout très peu perturbés par par l'atmosphère et par la pollution. Alors pour finir, dans ces observatoires terrestres, il y a près de chez nous, ici, le Pic du Midi, qui est maintenant plus un musée touristique, un lieu touristique, un observatoire, mais qui a travaillé très longtemps avec des scientifiques dessus, dans l'observatoire. Et puis pour finir, parce qu'on ne peut pas ne pas les citer, il y a des petits, ce n'est pas le terme, mais des observatoires qui permettent ici de faire une formation et une éducation extrêmement importante pour tous les jeunes. Donc c'est les Pléiades à Rieux et vous avez un autre observatoire à Sabarat. Bien. Là, c'était essentiellement des télescopes optiques. Mais l'optique, c'est qu'une partie visible du spectre électromagnétique. Et vous voyez ici que la lumière visible, c'est uniquement cette bande de fréquence qui est très petite par rapport à l'ensemble des ondes électromagnétiques qu'on peut avoir. Sur la droite, ici, vous avez les fréquences qui augmentent, les longueurs d'onde qui diminuent. Vous avez ici le violet, l'ultraviolet, les rayonnements X et les rayons X, et puis les rayons gamma. De l'autre côté, vous avez les ondes après la lumière rouge, vous avez l'infrarouge, vous avez ensuite les ondes micrométriques, etc. Par exemple, les ondes des fours à micro-ondes. Donc toutes ces bandes de fréquences sont utilisées. Et pour ça, on a des radiotélescopes. Pardon, j'en ai donné que deux, mais il y en a plein, évidemment, comme pour les observatoires. Vous avez celui de Nancy, en France, qui se trouve à 30 km de Bourges, pardon, et qui est un des gros télescopes mondiaux. Mais le plus gros, là, qui vient d'être inauguré, c'est le FAST en Chine, et c'est un télescope qui a une ouverture de 500 mètres. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la taille de cet appareil. Alors on peut espérer qu'il trouve beaucoup de choses. Alors après avoir vu les observatoires terrestres, on est allé plus loin en lançant des satellites qui permettaient de s'affranchir d'un certain nombre de perturbations de la Terre. Donc les premiers, par exemple l'AFR1, c'est pour mémoire, c'est le premier satellite scientifique français qui a été lancé en 1965. Je vous rappelle que le premier satellite qui a été lancé, c'est par les Russes, c'est Sputnik en 1958. Alors depuis, il y a eu des centaines, pour ne pas dire des milliers, de satellites qui ont été lancés et ils ont été de plus en plus dédiés à certaines choses. Là, j'ai listé trois satellites, comme WMAP et Planck, qui sont des satellites destinés, entre autres, à étudier le fond diffus cosmologique. Et ça, j'en parlerai un peu plus tard encore. Il y a aussi les télescopes spatiaux, comme Hubble, qui a été lancé en 1990, et qui donne toujours des informations. Voici une image de Hubble et une image du satellite Planck. Alors Hubble, il est à une altitude de l'ordre de 590 km au-dessus de la surface de la Terre. Et lorsqu'on l'a lancé, il s'est avéré qu'il était bigleux. Il voyait pas clair, il était myope. Donc heureusement, à l'époque, il y avait encore la navette Challenger qui a pu le récupérer. Ils ont changé toute l'optique à l'intérieur de Challenger, ils l'ont remis en place, et depuis ils donnent des images magnifiques. Comme vous avez pu le voir en entrant dans cette salle, vous aviez un diaporama d'un ensemble de galaxies dont les photos ont été prises par Hubble. Alors le successeur de Hubble, c'est le James Webb, qui doit être lancé vers 2018, s'il n'y a pas de retard dans le développement du programme. Et comme il y en a toujours, ça, de toute façon, il sera lancé. Il y a d'autres types de satellites qui sont utilisés à d'autres applications, comme par exemple Kepler, qui est un satellite de la NASA aussi, américaine, qui a été lancé en 2009 et qui a donné jusqu'à maintenant des informations. Lui, c'est pour découvrir les exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui seraient à peu près de la taille de notre Terre, mais dans d'autres galaxies. Et au jour d'aujourd'hui, il a déjà trouvé plus de 1200 planètes qui pourraient correspondre à ce qu'on cherche. Alors, la compréhension actuelle de l'univers. Bien, je vais parler de la relativité générale. Et avant, c'est Newton qui a développé sa théorie de l'attraction universelle. Et pour lui, c'était la force. C'était une force qui tirait les objets vers la Terre, ou la Lune vers la Terre, ou la Terre vers le Soleil. Donc c'est quelque chose de tout à fait intuitif. Einstein, au contraire, lui, il a une conception totalement différente. Pour lui, il y a un tissu en trois dimensions. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas se représenter ça en trois dimensions, mais c'est un tissu qui est à la fois espace et temps. Et vous prenez un exemple en deux dimensions, vous prenez un tissu élastique de dimension infinie, vous le tendez, il est plan. Si vous mettez une boule de pétanque un peu lourde sur ce tissu élastique, elle va s'enfoncer. C'est exactement comme la Terre, ici, qui est enfoncée dans son tissu spatio-temporel. Et vous avez la Lune à côté, qui, elle aussi, déforme un peu l'espace-temps. En fait, ce que dit Einstein, c'est que la matière dicte la courbure de l'espace. Plus la matière est lourde, et plus la matière est importante, et plus l'espace est courbé. Et en contrepartie, l'espace dicte le mouvement de la matière. C'est-à-dire que les mouvements de la matière, comme l'espace est déformé, la matière se déplace sur une géodésique, c'est-à-dire sur un chemin pour lequel qui est le plus court entre deux points. Alors, quelques applications de ce qu'a trouvé Einstein. La courbure des rayons lumineux. Si vous avez une masse ici, une planète quelconque, dans l'espace-temps, qui déforme donc l'espace-temps, il y a une autre planète qui, s'il n'y avait pas celle-là, aurait une trajectoire rectiligne, et la flèche verte, avec la masse ici qui déforme l'espace-temps, vous avez cette planète qui est déviée. Mais ce n'est pas simplement la planète, la lumière l'est aussi. Là, en l'occurrence, c'est la lumière qui est déviée. Et voici un schéma classique où vous avez le Soleil. Vous avez ici une planète qui est éclairée par le Soleil, et le rayon lumineux qui devrait nous arriver ici, en fait, il est dévié par le Soleil. Et ici. Alors, cette expérience a été faite dès 1919 par un Anglais, un astronome anglais qui s'appelle Newton, et ça a permis tout de suite d'avoir une énorme publicité pour la théorie d'Einstein. Une deuxième conséquence de cette théorie de la relativité générale, c'est la dilatation du temps, où on parle du ralentissement des horloges gravitationnelles. Parce que déjà dans la relativité restreinte, on avait trouvé la dilatation du temps et la contraction des longueurs. Et il y a le paradoxe célèbre des jumeaux de Langevin, qui était un physicien français des années 1900-1930, et qui était un ami d'Einstein. Il avait trouvé ce paradoxe. Vous prenez deux jumeaux qui sont sur la Terre, il y en a un qui part avec une fusée, dans une fusée, pardon, à une vitesse proche de celle de la lumière, et lorsqu'il revient de son voyage, il est beaucoup plus jeune que celui qui est resté à Terre. Alors là, c'est aussi une dilatation du temps, mais cette fois-ci due à la gravitation. Donc ça se combine avec la relativité restreinte. Là, c'est un exemple où vous voyez que le bonhomme qui est monté sur la chaise, il a une horloge qui avance plus vite que celui qui est au sol. On peut le remarquer sur les cadrans. Alors là, c'est un peu caricatural, mais ça voudrait dire d'ailleurs que vous avez intérêt à vivre au bord de la mer plutôt qu'en montagne, parce que vous vivrez plus longtemps au bord de la mer. Votre horloge interne sera plus lente. Alors, ça a l'air un peu loufoque comme ça. Seulement, il y a une expérience, enfin, il y en a eu d'autres, mais la première expérience qui a réussi à démontrer ça, c'est avec une horloge atomique, enfin deux horloges atomiques, qui étaient l'une sur une droite verticale, à une vingtaine de mètres l'une de l'autre. Ces deux horloges atomiques donnaient des temps différents et des résultats qui étaient prévus par la relativité générale. Alors, un troisième effet important, c'est l'effet Doppler gravitationnel. C'est l'effet Doppler, on le connaît ici, sur la Terre. Les radars de la police, ils travaillent avec ça. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le Doppler gravitationnel, c'est un peu différent du Doppler que l'on entend. Par exemple, vous êtes au bord d'une route, il y a une voiture de pompier qui est au loin, qui va vers vous, le son devient de plus en plus aigu, et quand elle s'éloigne de vous, le son devient de plus en plus grave. C'est-à-dire qu'il y a une variation de fréquence. Mais là, on trouve la même chose avec l'effet Doppler gravitationnel, mais l'explication est différente. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, chaque planète, chaque l'étoile a son propre spectre que l'on mesure avec des spectroscopes. Vous avez des spectres continus, comme ici, et des spectres discrets, pardon, avec des raies de fréquences différentes. Si vous observez une planète ou une étoile très loin, elle vous renvoie une lumière. Si elle était fixe par rapport à vous, on aurait ceci, un spectre continu avec associé à un spectre de raies qui définit un certain nombre de composants spécifiques en matière de la planète. Et si la planète s'éloigne de vous, ou l'étoile s'éloigne de vous, vous voyez un décalage des différents traits vers le rouge. Et inversement, si elle vient vers vous, c'est un décalage vers le bleu, vers l'ultraviolet. Donc décalage vers l'infrarouge, décalage vers l'ultraviolet. Et ça va servir pour comprendre ce que devient l'univers. Alors, Einstein, lorsqu'il avait établi ses équations, à l'époque où il l'a fait, les physiciens, l'ensemble du monde scientifique pensaient que l'univers était statique, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de début, il n'avait pas de fin. Et donc, comme ces équations semblaient montrer que l'univers devait être dynamique, il a décidé de rajouter un terme pour rendre son équation statique. Il a reconnu après, par la suite, qu'il avait fait la plus grande erreur de sa vie. Mais indépendamment de lui, un premier mathématicien, Friedman, en 1922, avait, en prenant des hypothèses simplifiées, réussi à résoudre les équations d'Einstein, et il avait trouvé que l'univers devait être dynamique. Indépendamment de lui, un autre scientifique, Georges Lemaître, a retrouvé ce phénomène de dilatation, d'expansion de l'univers, en 1927. Il faut préciser que Georges Lemaître, il était à la fois scientifique et chanoine. Il a d'ailleurs terminé sa vie comme directeur de l'Institut scientifique du Vatican. Il est mort en 1966. Donc, tous ces résultats théoriques ont été confirmés par des résultats expérimentaux qui ont été faits par Edwin Hubble aux États-Unis et Vesto Slipher. Alors, donc, il y a une expansion de l'univers. Mais comment est-ce qu'il bouge? Eh bien, voici un schéma extrêmement simplifié. À un instant T, là c'est le temps qui va vers de la gauche vers la droite, vous avez l'univers qui a, on va le représenter par un ballon de baudruche. Sur ce ballon, vous mettez avec un marqueur des points qui sont proches les uns des autres. Si vous soufflez, vous augmentez le volume de votre ballon, vous voyez ces points qui s'écartent les uns des autres. Et plus vous soufflez dans le ballon, et plus ces points s'écartent. Eh bien, ça se passe exactement de la même façon. Les galaxies se déplacent non pas dans l'univers, mais elles sont portées par l'extension de l'espace-temps. Là, votre ballon, c'est l'espace-temps, et en fonction du temps, il gonfle, et donc vos galaxies s'éloignent les unes des autres. Alors, voilà cette fameuse loi de Hubble. Vous avez en abscisse la distance. La distance depuis notre galaxie, nous où nous sommes, par rapport aux galaxies qu'on observe. Et en ordonnée, vous avez la vitesse de fuite de ces galaxies. Et vous voyez que plus les galaxies sont loin, et plus leur vitesse de fuite est grande. C'est la formule qui est là, mais le H0, c'est la constante de Planck. Il se trouve que du temps de Hubble, toutes les mesures étaient dans ce domaine-là, tout petit. Et toutes les mesures que vous voyez après, c'est toutes les mesures qu'on a faites depuis l'époque de Hubble, c'est-à-dire 1925, en gros. Alors, ce paramètre H0, il varie en fait en fonction du temps. Ça. Et on en verra ça un peu plus tard. Donc, si l'univers grossit, s'étend avec le temps, il arrive un moment, si on prend le film à l'envers, si on rebobine la caméra, vous allez avoir de plus l'univers qui va aller de plus en plus, qui va être de plus en plus petit. Si on suppose que la loi de Hubble est valable jusqu'à l'origine, à l'origine on a un point. Donc, Lemaître, il pensait qu'au départ, c'était un atome primitif qui explosait, qui se décomposait en de multiples atomes et qui était à l'origine de la fabrication, de la construction, de l'émergence des différentes étoiles et planètes. Mais ce qu'il y avait d'important, bon, donc ce n'était pas extrêmement précis, mais c'était une première idée. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est qu'il n'a jamais, lui qui était croyant, lui qui était chanoine, donc de l'Église catholique, il n'a jamais voulu mélanger les choses, et pour lui, ce qu'il regardait, c'était le commencement de l'univers, mais absolument pas la création, et c'était indépendant. Bon. Un autre scientifique, George Gamow, qui est bien connu aussi parce que c'était un touche-à-tout qui a travaillé dans tous les domaines de la mécanique quantique, jusqu'à l'ADN. Il a travaillé sur l'oxyribonucléique. C'était un élève de Friedman, et lui a une idée en 48 beaucoup plus précise de ce que pouvait être le début de l'univers. C'était une soupe de dense de neutrons et de protons. Et à l'époque, il était déjà spécialiste de physique des particules. Donc, pour lui, cette soupe de neutrons et de protons qui allait, c'était la fabrication de tous ces nucléons. Un proton, un neutron, c'est un nucléon. Et donc, c'est ce qu'on appelle depuis la phase de photosynthèse primordiale. Alors, une chose importante à bien retenir, c'est que tous les résultats expérimentaux qu'on a obtenus, à partir de nos satellites, de nos observatoires, etc., montrent que dans l'univers, toutes les planètes, toutes les étoiles qu'on peut voir, sont constituées des mêmes atomes que sur la Terre. Donc il n'y a pas a priori, de matière inconnue. Et j'ai rappelé ici la classification périodique des éléments, c'est-à-dire les différents atomes qui constituent toute la matière, et au-delà des atomes, tout ce qui constitue les atomes, c'est-à-dire la physique des particules avec les quarks, les gluons, etc. Donc, on peut passer à la suivante. Et voilà, maintenant, quelque chose d'un peu plus précis sur le commencement du Big Bang. Après toutes ces préliminaires. Alors, on est ici. Aujourd'hui, on est sur cette courbe. Et vous voyez pas grand-chose, mais vous voyez quand même ce que nous voyons tous les jours. Donc, de la matière qui est constituée d'atomes, qui est constituée de molécules, etc. Et tout ça, ça a pris un certain temps. Par exemple, la Terre, elle ne s'est pas fabriquée toute seule. Avant d'arriver dans l'état où elle a mis environ 4 milliards d'années. C'est-à-dire que la Terre, elle se trouve, la fabrication de la Terre, j'arrive pas à voir, mais c'est par là, dans cette zone-là. Et puis, avant qu'on fabrique, qu'il y ait la construction, la réalisation des planètes et des étoiles, il y a eu la fabrication des atomes qui étaient les constituants de toutes ces matières. Donc les atomes sont arrivés ici au moment où, là, vous avez ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, au moment où justement les photons, qui sont les particules de lumière, ont réussi à s'échapper de toutes les forces qu'il y avait avant et qui les retenaient. Donc là, vous avez tous les noyaux qui se sont formés dans la phase de nucléosynthèse, et tous ces noyaux ont récupéré des électrons pour former des atomes, et les photons ont pu se libérer, et ils ont pu s'échapper à partir de cette zone-là, et c'est pour ça qu'on réussit à les voir encore aujourd'hui. Alors, avant, ici, dans toute cette partie-là, vous avez petit à petit la constitution des différentes particules à partir des particules élémentaires dont je vous ai montré le tableau dans la transparent précédent, où vous aviez les quarks, les gluons, etc. Les quarks et les gluons, ils constituent, ils fabriquent des protons, des neutrons, etc. Et donc dans toute cette partie-là, vous avez la constitution petit à petit des atomes dans ce qu'on appelle un plasma gluonique, quarks, etc. Bon, avant ici, on arrive à 10⁻¹⁰. Alors, j'ai pas parlé de l'échelle de grandeur, mais elle est énorme, c'est pas du tout une échelle linéaire. Ici, vous avez 13,8 milliards d'années, c'est là où nous sommes, Le fond diffus cosmologique, il est à 380 000 ans, après le temps zéro, et le temps zéro, il est là, le fameux Big Bang. Et ici, on arrive à 10 moins 10 secondes, et là, c'est ce qu'on a réussi à faire avec le LHC, le Large Hadron Collider du CERN à Genève. Et je pense que vous savez qu'en 2012, on a trouvé ce fameux boson de Higgs au LHC, qui correspondait justement à... On a repris les conditions qui existaient à cette époque-là, à 10 puissance moins 10 secondes du Big Bang. Donc, on avance toujours, ou plus exactement, on recule le film, jusqu'à ici. Ici, vous êtes à 10 puissance moins 37, quelque chose comme ça, ou 10 puissance moins 38, et vous avez une zone ici inflationnaire. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, d'un seul coup, en l'espace de 10 puissance moins 32 secondes, l'univers a grossi d'un facteur 10 puissance 40. Je ne sais pas si ça peut vous dire quelque chose, mais 10 puissance 40, c'est 10 suivi de 40 zéros. Alors 10 puissance 3, c'est 1000. 10 puissance 6, c'est 1 million. 10 puissance 9, c'est 1 milliard. Vous voyez où on va. Donc là, à cette époque-là, l'univers, juste avant cette inflation, il est extrêmement petit. Il est extrêmement petit, c'est-à-dire de l'ordre de 10 puissance moins 35 mètres. Et d'un seul coup, en l'espace de 10 puissance moins 32 secondes, il devient gros comme un ballon de football. Vous voyez le... Bien, alors j'ai parlé du fond diffus cosmologique. On a essayé de le trouver. Au moment du Big Bang, vous n'avez peut-être pas vu, sûrement pas d'ailleurs, les températures sont extrêmement élevées, c'est des milliards, des milliards et des milliards de degrés. Et au fur et à mesure que l'univers s'étend, vous avez la température qui décroît très rapidement. Donc à 380 000 ans, la température n'est déjà plus que de 3000 degrés Kelvin. Le degré Kelvin, c'est 273, enfin le degré Celsius plus 273, ça vous donne les degrés Kelvin. Et le 0 degré Kelvin, c'est moins 273 degrés Celsius. Donc au moment du fond diffus cosmologique, la température est de l'ordre de 3000 degrés Kelvin. Et lorsque on regarde maintenant aujourd'hui, plus de 13 milliards d'années après, la température n'est plus que de 2,7 degrés Kelvin. Et donc c'est le refroidissement de l'univers, qui va continuer d'ailleurs à se refroidir. Alors la première vérification expérimentale date de 1965 par deux ingénieurs de la société Bell aux États-Unis qui étaient en train de développer une nouvelle antenne, et ils avaient un bruit de fond qu'ils n'arrivaient pas à enlever. Et ce bruit de fond sur cette antenne s'est avéré être la première détection du fond diffus cosmologique. Il s'agit de Penzias et Wilson. Alors, depuis, on a évidemment travaillé pour améliorer la connaissance sur ce fond diffus. C'est pour ça qu'on a lancé les satellites COBE, WMAP et Planck. COBE, c'était en 1989, WMAP en 2001 et Planck en 2009. On voit les résultats et on voyait qu'au fur et à mesure du progrès technologique, on obtient des images de plus en plus précises avec une meilleure résolution. Qu'on peut observer avec la photo suivante. Vous voyez là une image tout à fait récente du satellite Planck qui représente le fond diffus cosmologique. Alors, entre les taches bleues et les taches rouges, il y a très peu de différence. Là, ce sont
des figures qui représentent des variations de température relatives, delta T sur T, et cette variation de température relative est de l'ordre de 10-5 degrés, c'est-à-dire que c'est très faible. Mais ça a suffi pour que toutes ces taches un peu rouges soient les grumeaux qui, dans le temps, sont devenus des planètes ou des étoiles, ou des galaxies. Alors, on va revenir sur le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Là, je reviens, voilà. Ici, c'est une représentation de la détection du boson de Higgs au CERN. À 10-10, qui correspond à l'équivalent de 10-10 secondes par rapport au Big Bang. Donc maintenant, à la suivante, voilà, je reprends ici mon schéma de l'univers et je vais me pencher sur cette figure-là. Ici, vous avez l'instant 0 est ici. 10-44 secondes, 10-27, etc. 10-10 ici. En bas, vous avez l'échelle de température. 10 puissance 32 degrés jusqu'à 10 puissance 15 degrés Kelvin. Et là, c'est développé dans toutes les théories de la physique des particules, le modèle standard. On a ici, là où on est, bien après, on a quatre forces fondamentales. La force de gravité, la force faible qui correspond au problème de radioactivité des atomes. Ici, vous avez l'électromagnétisme, tout ce qui est onde visible, onde radio, onde rayons X, etc. Et ici, la force forte, qui est la force qui relie, qui tient les quarks entre eux grâce aux gluons. Donc vous avez ces quatre forces aujourd'hui, c'est ça, ça, ça et ça. Et elles ont des intensités extrêmement différentes les unes des autres. Pour vous donner une idée, ici, si la force relative c'est 1, ici c'est 10-39. Mais ce qu'on imagine avec toutes les théories qui ont été développées, c'est qu'on arrive à une convergence de l'ensemble de ces quatre forces au moment où, à proximité du Big Bang. Là, il y a eu une première, ici, dissymétrie, brisure de symétrie, qui ont fait que la force faible et la force électromagnétique se sont séparées, et ce point-là, il est à 10-10 secondes, et c'est là qu'on a trouvé le boson de Higgs. L'expérience du LHC. La force forte et cette force électro-faible devraient converger ici vers 10 puissance moins 37, 35, peu importe. De toute façon, on n'a pas les moyens de faire un collisionneur capable d'arriver à ce niveau-là. Et le collisionneur sera aussi grand que est aussi étendu que la voie lactée. Donc c'est purement théorique. Et on espère qu'ici, ces quatre forces se regroupent pour une théorie unique, une grande théorie, la grande unification qui reste tout à fait théorique. Bon. Alors, j'ai oublié de vous dire que qu'est-ce qui se passe au-delà de 10-43. Jusqu'à 10-43, les théories physiques qu'on a développées sont validées. Et en dessous, la physique, je dirais, normale, celle qu'on connaît, ne fonctionne plus du tout. Et là, c'est le domaine des évaluations de nouvelles théories, comme la théorie des cordes, ou la théorie de la gravité quantique à boucle, et ça j'en parlerai pas, et je me contenterai de rester au-delà ou de ça des 10 puissance moins 43 secondes, qui correspondent aussi à une longueur qu'on appelle la longueur de Planck, de 10 puissance moins 35 mètres, c'est déjà tout petit. Donc on peut dire aujourd'hui que tout ce qui est au-delà de 10 moins 35 mètres et de 10 moins 43 secondes, donc le temps de Planck et le mur de Planck, la longueur de Planck, tout ce qui est à partir de là est connu à peu près correctement. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait une phase d'inflation. Je vous en ai parlé, c'est ici. Cette phase d'inflation, elle a été théorisée par un physicien qui s'appelle Alan Butt dans les années 80. Et son modèle a réussi à coller très bien avec le reste, ce qui fait qu'il a été admis en moins en tant que théorie. Que, évidemment, on ne peut pas prouver plus exactement expérimentalement. De même, de l'autre côté, lorsque l'on se trouve aujourd'hui, on s'est aperçu que l'univers s'étendait, accélérait son expansion. Et ça a été découvert expérimentalement par des équipes de trois patrons d'équipe, Perlmutter, Schmidt et Rice, en 1998, où ils ont montré expérimentalement que les galaxies, la vitesse d'éloignement des galaxies augmentait par rapport à la nôtre de galaxies, la Voie lactée. Donc, on passe à la planche suivante pour essayer d'expliquer pourquoi il y a cette accélération de l'univers, l'expansion de l'univers, et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, du côté du début d'inflation. Donc, les idées aujourd'hui, elles portent sur ces deux nouvelles matières, la matière noire, qu'on ne peut pas voir, c'est pas de la matière normale, entre guillemets, elle n'est pas baryonique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas constituée de protons, de neutrons, d'électrons, comme toute la matière que nous connaissons. C'est une matière qui ne se voit pas, elle ne réfléchit pas la lumière, et la seule chose qu'on peut savoir, c'est que ce sont ces effets gravitationnels qui impliquent son existence. Et tout ce qui a été, aussi bien par les calculs que par les résultats expérimentaux, nous amène à penser que c'est 27% de l'univers qui est constitué de cette matière noire. Alors aujourd'hui, on n'a absolument aucune idée en quoi elle consiste. Pour l'énergie sombre, elle constitue 68%. Alors j'ai oublié de dire que pour faire 100%, 27 et 68, ça ne suffit pas. Il y a quand même encore 5% de matière normale, entre guillemets, de matière que nous connaissons, mais que 5%. Donc l'énergie sombre, qui correspond à 68% de l'univers, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'assimiler à une énergie du vide. Alors le vide, pour le commun des mortels, c'est quand il n'y a plus rien dedans. C'est une enceinte dans laquelle il n'y a plus de molécules, il n'y a plus un atome, il n'y a plus rien. Ben, il se trouve qu'en mécanique quantique, le vide n'est jamais vide. Il y a toujours des particules virtuelles qui se promènent dedans, qui se créent, qui s'annihilent, qui se recréent, etc. Donc il y a une énergie du vide. Et il se trouve que cette énergie sombre pourrait correspondre à cette énergie du vide. Et ce qui fait dire que c'est de l'énergie du vide, c'est que il est. Et là, c'est. Je ne sais plus si je l'ai noté. Cette énergie est distribuée de façon uniforme dans l'espace et dans le temps. Et elle est constante. Donc, ça veut dire que, au début du Big Bang, cette énergie, c'est l'énergie du vide, elle avait une certaine valeur. Et lorsque on avance dans le temps, l'univers se croît de plus en plus, mais l'énergie du vide reste toujours constante. Donc, il y a toujours une lutte entre les interactions, ou la gravitation plus exactement, Au tout début, c'est la gravitation qui l'emporte. Ensuite, au cours du temps, quand l'univers commence à grossir, c'est n'est plus la gravitation, mais c'est plus la matière, donc, mais c'est la lumière qui l'emporte. Et actuellement, on se rend compte que, puisque l'énergie du vide est une constante, elle est en train de prendre le pas sur les deux autres entités, lumière et matière, qui, elles, décroissent avec l'extension de l'univers. Et donc, comme cette énergie du vide est en train de prendre le pas sur les deux autres, il y a accélération de l'expansion de l'univers. Maintenant, je passe la deuxième singularité, c'est les trous noirs. Alors, cette singularité, elle a été déjà dès le début où la relativité générale a été développée par Einstein. C'est un mathématicien allemand, Karl Schwarzschild, tout de suite après qu'il ait eu en main les équations d'Einstein, à partir de solutions d'hypothèses simplificatrices, a trouvé justement une possibilité qui est une singularité dans le tissu espace-temps. Alors les trous noirs, on en connaissait déjà au moins des idées de réalisation, ne serait-ce qu'avec la mécanique newtonienne. Du temps de Newton, on pensait que les ondes lumineuses étaient des particules. Et si on a un trou noir, c'est que ce trou noir n'émet absolument aucune lumière. S'il n'émet aucune lumière, c'est que toutes les particules de lumière sont retenues par le trou noir. Et comme on sait que, par exemple, pour la Terre, qui est une planète normale, entre guillemets, la vitesse de libération des objets de la Terre, des fusées par exemple, pour aller mettre des satellites dans l'espace, la vitesse de libération est de l'ordre de 11 km par seconde. Et si on prend maintenant un trou noir, et si on veut que les particules de lumière n'échappent pas du trou noir, il faut que la vitesse de libération, ou exactement plutôt le contraire, si on veut que les particules de lumière s'échappent du trou noir, il faut que la vitesse de libération soit supérieure à 300 000 km par seconde. Donc ce qui paraît quand même faramineux. Et prenant les équations de Newton, on s'aperçoit que la masse de cette planète doit être extrêmement élevée et de diamètre extrêmement petit. Donc tout ça, c'était resté une curiosité jusque à maintenant. Donc maintenant, on a étudié un peu plus sérieusement les trous noirs. Donc ça, voilà, formation d'un trou noir. Vous avez votre planète de masse donnée qui forme cette déformation de l'espace-temps. Ça, c'est pour une planète normale. Et si vous avez une masse énorme, à la place de cette masse avec une superficie toute petite, vous pouvez arriver à percer votre matelas, votre tissu spatio-temporel. Et donc arriver à une singularité. Et cette singularité, dans tout ce domaine-là, le temps est pratiquement arrêté. Ce que vous avez sans doute... Vous vous souvenez sans doute que dans un des transparents précédents, j'avais parlé de le temps ralentissait avec la gravité. Plus la gravité est forte, et plus le temps ralentit. Comme là, la gravité est infinie, ben le temps est infiniment lent. C'est encore une autre des singularités. Alors l'horizon du trou noir, c'est l'horizon ou le rayon de Schwarzschild. C'est le premier qui a développé cette théorie. Alors, un autre
Une autre idée pour comprendre ce qui se passe, puisque là vous avez une gravité qui est énorme, on peut faire l'analogie avec si vous êtes sur un bateau sur la rivière Niagara, par exemple, assez loin de la chute, et vous avancez vers la chute d'une façon assez lente et vous pouvez toujours reculer, vous pouvez vous en sortir. Si vous approchez trop près de la chute, vous aurez beau essayer de ramer tant que vous pourrez pour remonter le courant, vous serez emporté par la chute. Et là, c'est exactement la même chose. Tous les objets, toutes les planètes, tous les observateurs qui pourraient s'approcher trop près de cet horizon du trou noir seraient attirés d'une façon absolument sans possibilité de s'en sortir. Et de plus, comme la gravité croît en l'intérieur du trou noir, vous commenceriez par être écartelé et la tête se séparant des pieds, etc. Donc c'est un supplice vers, pas vers. Alors, comment les trous noirs se forment dans l'univers? C'est généralement la suite d'une explosion d'étoiles, une supernova ou un quasar, et c'est aussi en fonction de la masse grand M. Là, par exemple, vous avez le Soleil qui a une masse M, mais qui ne fait pas un trou noir. Vous avez une naine blanche qui ne fait pas non plus encore un trou noir. Et ni l'un ni l'étoile à neutrons. Bon. Ça, c'est lié à un critère qui s'appelle le critère de Chandrasekhar, qui était un physicien indien ou pakistanais, enfin il est né au Pakistan mais il était indien et finalement il a travaillé aux États-Unis. Et donc le 1,4 Mθ, c'est la relation de Chandrasekhar. Si la masse de votre étoile qui se transforme est inférieure à 1,4 Mθ, la masse du Soleil, l'étoile se transforme en naine blanche. Si M est inférieur à 2,3, elle se transforme en étoile à neutrons. Et si M est supérieur à 2,3, masse du Soleil, l'étoile se transforme en trou noir. Alors, il existe quatre types de trous noirs. Les deux premiers sont hypothétiques, parce qu'on n'en a encore jamais observé sérieusement. Donc je passe, et les deux suivants, en revanche, existent. Il y a les trous noirs stellaires qui correspondent à l'effondrement d'une étoile quand elle a fini son carburant. Son carburant, c'est les réactions de fusion thermonucléaire de l'hydrogène et de l'hélium. Et lorsqu'il n'y a plus de matière suffisante, il ne reste plus que des particules qui sont à ce moment-là tenue par la gravité à s'accumuler, puisque la gravité est toujours une force attractive, et vous finissez par obtenir un trou noir. Un exemple de trou noir, c'est Cygnus X1, qui est très loin de chez nous, évidemment, mais notre Soleil aussi, dans 4 milliards d'années, devrait se transformer, c'est pas 4 millions, c'est 4 milliards, devrait se transformer en peut-être pas trop noir, puisque il se transformera plutôt en naine blanche, puisqu'il est 1,4 masse du Soleil, lui il est inférieur à 1,4 masse du Soleil. Bon, deuxième trou, les trous noirs supermassifs, alors ceux-là ils sont vraiment énormes, des millions et des millions, on peut dire des milliards de fois plus massifs que la masse du Soleil. Et ces trous noirs se cachent au centre de toutes les galaxies. Et il y a même plusieurs trous noirs dans chacune de nos galaxies. Aujourd'hui, on en a à peu près compté environ 200, mais il y en a bien plus que ça. Un exemple, c'est Sagittarius A étoile, qui est au cœur de la Voie lactée, et dont la masse est estimée entre 2 et 4 millions de fois celle du Soleil. Alors maintenant, j'en parle, mais ce sont des trous noirs théoriques et
C'est un peu... Là, on baigne complètement dans la physique quantique et dans la relativité générale. Et c'est une... Le rayonnement de Stephen Hawking, c'est purement théorique, et ça a été développé dans les années 1975, mais j'ai voulu parler de Stephen Hawking parce que c'est un des grands physiciens actuels, qui est né en 1942 et qui malheureusement a attrapé la maladie de Charcot quand il avait 25 ans, au moment où il faisait sa thèse. Et il est toujours vivant, mais là vous le voyez encore, et c'est une photo assez ancienne de lui, où on le voit encore à peu près vif. Aujourd'hui il est dans une chaise électrique avec des tas d'appareils autour, et il ne peut dialoguer qu'au moyen d'un logiciel spécial avec un ordinateur. Bon, ce rayonnement de Stephen Hawking, si les gens sont intéressés, je pourrais en parler, mais en dehors de la réunion, parce que là c'est un peu trop compliqué. Et pour un trou noir de la masse du Soleil, il y a ce rayonnement fait qu'il y a une évaporation, mais la température de cette évaporation est de l'ordre de 10-7 degrés Kelvin. Alors, on ne le verra jamais, on ne sera jamais capable de mesurer ça. Bon, alors maintenant, revenons un peu à la réalité. Un trou noir, on ne peut pas le voir, mais on peut voir les conséquences. C'est-à-dire qu'il il perturbe son environnement. Si vous avez une étoile ou une planète qui est à proximité, trop près de lui, il l'attire et petit à petit, il mange cette planète ou cette étoile. Donc, il absorbe donc de la matière extérieure qui augmente sa masse. Mais en plus, le trou noir tourne sur lui-même. Il est en rotation, donc il a un moment cinétique. Et donc, comme il est en rotation, il peut échanger de l'énergie avec l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle le processus de Roger Penrose, qui est un mathématicien anglais qui travaille beaucoup avec Hawking. Alors, le fait qu'il peut y avoir échange d'énergie vers l'extérieur a fait penser qu'on pouvait récupérer cette énergie qui était expulsée par le trou noir pour nos propres besoins. Alors, ça sera peut-être dans 100 millions d'années une nouvelle façon d'obtenir... on n'aura plus de pétrole, on n'aura plus de thermofusion, la fusion thermonucléaire, mais on aura peut-être ça. Donc là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une étoile, elle se faisait manger par le trou noir, et petit à petit, et le cercle bleu que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le disque d'accrétion, c'est-à-dire que la matière s'accumule autour du trou noir et finit par tomber dedans. Et les jets que vous voyez par les autres, ce sont des jets de rayons X qui sont extrêmement puissants et qui peuvent montrer la position du trou noir. Alors, dernière chose, avant de terminer, c'est les univers parallèles. Alors, quand on revient au tout début du Big Bang, l'inflation primordiale, elle ne se serait pas produite une seule fois, mais un nombre infini de fois dans un nombre infini d'endroits, je vais y arriver. Et chaque expansion, donc une infinité d'expansions, comme celle qu'on connaît, qu'on a vue, mais une infinité d'autres expansions qui auraient donné naissance à des univers bulles. Et donc notre univers n'en serait qu'un seul, qu'un d'entre eux. Donc ça, c'est une théorie qui a été développée par un russe américain, André Linde, dans les années 80 aussi. Bon. Et voilà, ce qui pourrait se passer, c'est que justement, vous avez un trou noir, une singularité, et la matière qui tombe dans ce trou noir passe dans un autre trou, mais cette fois-ci, c'est une fontaine blanche. Donc, elle éjecte la matière qui a été récupérée de l'autre côté dans un univers pour aller dans un autre univers. Bon, tout cela est
purement spéculatif. Mais il y a quand même de bonnes raisons de penser que ça pourrait, ce n'est pas invraisemblable. Bon, j'ai parlé que du Big Bang et des trous noirs, mais il y a plein d'autres choses à faire dans ce domaine de la cosmologie, à commencer par l'étude de la matière noire et de l'énergie sombre. Vous avez vu que ce n'était pas très clair. L'inflation primordiale et l'accélération de l'expansion de l'univers, on travaille toujours dessus. Les ondes gravitationnelles, c'est... Il faut savoir qu'on a pensé, et on est à peu près sûr aujourd'hui, d'avoir trouvé pour la première fois une manifestation d'ondes gravitationnelles de deux trous noirs qui se sont mangés l'un l'autre. Et ça, ça date du début de cette année. Grâce à deux systèmes, deux interféromètres spécialisés dans ce domaine pour rechercher les ondes gravitationnelles, qui se trouvent l'un aux États-Unis et l'autre en Italie. Bon, les exoplanètes, les quasars, le fond diffus. Alors, j'en ai pas parlé, mais il y a le fond diffus cosmologique des photons, en fait, mais il y a aussi celui des neutrinos, sur lequel il faut travailler. Et puis, en dernier point, l'aire de Planck, c'est-à-dire tout ce qui est entre 0 et le 10 puissance moins 43 secondes, où là, c'est le domaine de la théorie des cordes de la réalité quantique à boucle. Voilà. Donc, pour conclure, à la fin du 19e siècle, on pensait que la physique était à peu près connue partout, on savait tout. Il y avait deux petits problèmes, c'était le problème de l'éther et le problème de ce qu'on appelait la catastrophe ultraviolette à la fin du 19e siècle. Et puis tout de suite, en 1900, Planck est arrivé et a commencé par montrer que la catastrophe ultraviolette, on pouvait résoudre ce problème à condition de quantifier l'énergie. Et c'est le début de toute la mécanique quantique. Et de même, les expériences de Michelson et Morley à la fin du 19e siècle, vers 1890, ont montré que l'éther, ça ne devait pas exister. Et donc, c'est Einstein, en 1905, qui a supposé que la célérité du son, la célérité de la lumière, était la même, quel que soit le référentiel. Et à ce moment-là, il a développé sa théorie de la relativité restreinte, etc. Donc vous voyez qu'au début, à la fin du 19e, on pensait que tout était trouvé. À la fin du 20e, on sait que rien n'est trouvé. Et au début du 21e siècle, on a encore beaucoup de choses à faire. On attend un nouvel Einstein. Voilà.
Merci Dominique. Maintenant, si vous avez des questions.
Merci. Oui, on a parlé tout à l'heure de la fuite des galaxies.
Ouais.
Bon, c'est reconnu depuis Hubble, même Einstein avait reconnu son erreur.
Ouais.
C'était la fuite des galaxies et l'expansion de l'univers. Mais si on parle de fuite des galaxies, pourquoi se fait-il que dans notre propre amas local, c'est-à-dire la Voie lactée et Andromède et 25 autres galaxies naines, pourquoi il y a un rapprochement, notamment, entre Andromède et notre galaxie, la Voie lactée, qui fait que dans 4 milliards d'années, il y aura une collision et que nous formerons une seule galaxie dans 7 milliards d'années? Alors, c'est contradictoire avec la fuite des galaxies. Et est-ce dû à un problème de gravité exceptionnelle à l'intérieur d'un même amas local? Voilà ma question.
Je ne pourrais pas vous répondre sur cette question-là. Franchement, c'est vrai qu'il y a des galaxies qui semblent se rapprocher de la nôtre, mais je ne sais vraiment pas pour quelle raison.
Peut-être des trous noirs. Est-ce que tu peux prendre les autres?
Ce sera toujours mieux que rien, il faut circuler celui-là. Voilà.
Bien. Autre question ?
Oui.
Alors, allez-y.
C'est juste au moment que vous avez dit, juste avant la grande inflation, juste avant que l'univers passe à 10 puissance 40 mètres, vous avez dit qu'il était tout petit. Il y avait quoi autour, du coup ? On considère que c'est un rien ou...
Il n'y avait rien. Il y avait rien. On suppose que c'était vraiment le vide et que c'est... Tout cet univers, il a grossi comme un ballon de baudruche qui gonfle. En dehors du ballon, il n'y a rien. Et à l'intérieur du ballon, il y a de l'énergie du vide. Donc, à 10 puissance moins 43 secondes, l'univers est extrêmement petit. C'est pas visible. Et d'un seul coup, très vite, avec cette inflation, il est devenu aussi gros qu'un ballon de football. Et il a continué à grossir très très vite. Alors il faut voir que la vitesse d'expansion de ce ballon peut être beaucoup plus rapide, et la preuve d'ailleurs dans le cadre de l'inflation, peut être beaucoup plus rapide que la vitesse de la lumière, la célérité de la lumière. Parce que la vitesse de la lumière, elle est toujours à sa même vitesse dans l'espace-temps, mais c'est l'espace-temps qui l'emporte. Et l'espace-temps peut avoir une vitesse plus importante que celle de la lumière.
Moi, j'avais une question, s'il vous plaît.
Le micro à venir. Qui ?
Voilà. J'ai lu que l'équation d'Einstein ne serait pas valable parce qu'on ne pourrait pas multiplier une vitesse au carré. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus. E égale MC2, le C2, là, il n'est pas possible.
Excusez-moi, j'ai pas bien entendu.
Donc, l'équation d'Einstein, E égale MC2, ne serait pas valable.
Ah, E égale MC2.
Oui, parce qu'on ne pourrait pas... Enfin, multiplier une vitesse au carré n'est pas possible.
Je vois pas bien, parce que, par exemple, l'énergie cinétique, c'est 1,5 de MV2, c'est aussi une... L'énergie m, et pardon, 1,5 de mv2, m c'est une masse, et v c'est la vitesse de l'objet qui a une masse m. Donc 1,5 de mv2 c'est de l'énergie cinétique, et E égale mc2 c'est tout à fait homogène.
Bonsoir. J'aurais voulu savoir effectivement, actuellement nous n'avons qu'une preuve de l'existence même de la matière noire et de l'énergie sombre. Certains de vos confrères astrophysiciens pensent que c'est la physique qui n'est pas suffisamment développée, la théorie physique qui n'est pas suffisamment développée, et évoquent d'autres possibilités. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, tout à fait. Enfin, je peux vous dire qu'effectivement, ça ne... La matière sombre et l'énergie noire, ou l'inverse, de toute façon, c'est à peu près la même chose, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Là, ce que je vous ai donné aujourd'hui, c'est l'explication officielle. Hein, tout le monde, aujourd'hui, dit c'est ça, ce que j'ai dit. Hein, que l'énergie sombre, c'est par exemple l'énergie du vide. Bon. Il se trouve qu'il y a des astrophysiciens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Mais c'est donc, ça veut dire que c'est un sujet d'étude encore dans tous les domaines, même si il y a une majorité de physiciens qui pensent ce que je viens de dire, il y en a aussi d'autres qui ne sont pas d'accord et qui ont des raisons tout à fait valables de ne pas être d'accord. Donc c'est encore un sujet de recherche ouvert. Contrairement à d'autres cas, je voudrais parler parce qu'on est justement dans la région toulousaine et vous avez eu un professeur d'université qui s'appelait Henri Boisse à la faculté des sciences de Toulouse, qui était un type qui était remarquable. Il a refait toute la physique classique en 43 volumes en faisant des expériences tout à fait nouvelles pour l'époque. Un exemple, par exemple, il a écrit un bouquin sur la capillarité, et ce bouquin qui a été écrit dans les années 1930, parce que j'ai oublié de vous dire que Henri Boisse, il a été professeur, enfin il est né avant la 1900, et il a été professeur à la faculté des sciences de Toulouse jusqu'en 1955, et après il a pris sa retraite. Bon, eh bien, par exemple, son bouquin sur la capillarité, qu'il a écrit dans les années 1930, il y a un de nos derniers prix Nobel de physique qui s'appelle Pierre-Gilles de Gennes, qui est prix Nobel dans les années 80 et quelques, qui a dit que le bouquin qu'avait écrit Boisse était encore d'actualité. Vous voyez que, donc ce type, Boisse, n'était pas un idiot, et il a écrit des choses, et moi j'ai des bouquins de lui que je trouve remarquables, mais malgré ça, il a toujours refusé la relativité générale et la physique quantique. Il a toujours dénigré ces deux choses-là. Vous voyez que, bon, alors là, ce que je veux dire, c'est qu'avec la matière sombre et l'énergie noire, ou l'inverse, c'est un sujet de discussion. On ne sait pas encore ce que c'est réellement.
Bonsoir. J'ai lu aujourd'hui que les physiciens du CERN allaient faire une expérience, enfin essayer de créer des trous noirs, enfin, des mini-trous noirs, j'ai pu comprendre, pour essayer de démontrer qu'il y avait bien des multi-univers, enfin multi-univers. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste leur expérience?
Non, parce que je ne suis pas au courant de cette... Et ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on a mis en place le LHC, il y a eu des tas de gens qui se sont inquiétés sur le fait que, vu la puissance qui allait être donnée à deux faisceaux de protons qui venaient se rencontrer l'un dans l'autre, il y avait un risque de fabrication des trous noirs microscopiques qui correspondraient aux trous noirs primordiaux dont a parlé Stephen Hawking dans les années 75. Mais à ma connaissance, il y a des tas de scientifiques qui ont considéré que ce n'était pas possible de fabriquer des trous noirs qui pourraient en fait anéantir la Terre. C'est-à-dire qu'un petit trou noir créé dans le LHC pourrait prendre toute la matière qui est autour de lui, etc., grossir avaler la...
J'ai expliqué que c'était absolument impossible, que ce n'était pas du tout... cette grandeur-là, en fait. Jean-Pierre Lumière a dit que c'était des croyances infondées par rapport à ce que vous dites. Enfin, je ne défends pas ce que vous dites, mais...
Non, mais je connais pas cet article, il faudra que je le voie, si vous avez la référence.
Comment vous pouvez créer des trous noirs qui ne présentent pas de danger, mais qui leur permettraient de prouver...
Oui, je comprends. Comme là, j'ai montré un trou noir qui se transformait en fontaine blanche. C'est peut-être un peu ce qu'ils essayent de rechercher. Mais si vous avez la référence de l'article, volontiers, je voudrais bien l'étudier.
Autre question ? Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'univers multiple qui aurait pu être créé à l'origine. Vous avez parlé de trous noirs et de fontaines blanches. On a bien détecté des trous noirs dans notre univers, mais est-ce qu'on a détecté des fontaines blanches?
Ah non, ça ne peut pas être possible puisque c'est dans un autre univers. Ça peut pas être dans l'autre.
C'est pas réversible, c'est-à-dire que ce qui se passe dans un autre univers ne peut pas réapparaître dans l'autre par les fontaines blanches.
Oui, c'est une bonne question, mais comme on n'en a jamais vu apparaître. Les univers multiples, ça a beaucoup toujours amusé les physiciens. Parce que là, j'ai parlé des univers multiples en astrophysique, mais vous savez qu'en mécanique quantique, le problème, c'est le problème de la mesure, parce que vous avez une indétermination. Avant la mesure, on ne sait pas où est la particule, on ne sait pas où est l'onde, elle se transforme en particule quand vous faites la mesure. mais vous ne savez pas ce que vous allez obtenir. Et en fait, vous avez une superposition de solutions possibles. Et donc ça, c'est le... ça veut dire que c'est la réduction du paquet d'ondes qui, avant la mesure, vous avez eu des probabilités d'avoir la particule à certains endroits. Lorsque vous faites la mesure, vous n'avez qu'une valeur. Donc vous réduisez la largeur du paquet d'ondes. C'est l'explication de l'école de Copenhague, celle de Niels Bohr. Mais il y a d'autres explications possibles, en particulier une qui a été développée par un étudiant de Wheeler, un Américain qui s'appelle Everett, qui lui a supposé que toutes les solutions existaient, puisque il y a superposition de solutions, toutes les solutions existaient dans des univers différents. Bon, c'est encore...
J'ai une autre question, c'est pour ça. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'univers, du début de l'univers, de son expansion. Vous ne nous avez pas parlé de l'infiniment grandeur de l'univers. Mais par contre, vous nous avez dit qu'il y avait environ 200 milliards de galaxies dans l'univers. Et oui. Si l'univers n'a pas de fin, comment peut-on savoir qu'il y a 200 milliards de galaxies?
Bah, celle que... L'univers, bon, alors, le Big Bang date de 13,8 milliards d'années. Mais compte tenu de la constante de Hubble, compte tenu de l'inflation, compte tenu de l'accélération de l'extension, on peut calculer que l'horizon de l'univers, il est à plus de 40 milliards d'années-lumière. Donc, donc on peut voir, nous, l'horizon, c'est-à-dire que c'est comme vous êtes sur un bateau sur la mer, vous voyez l'horizon, puisque vous ne voyez pas après, vous ne le voyez pas. Mais donc au-delà des 45 milliards d'années, il y a encore autre chose. Mais ça, on ne sait pas, on ne peut pas le voir. Et les 200 milliards de galaxies que l'on envisage, c'est dans la partie jusqu'à 45 milliards d'années.
Bien. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de continuer les discussions, celles-là ou d'autres, devant la collation qui vous est proposée. Merci de nous. En ce qui concerne les multivers, la théorie des corps, etc., vous pouvez chercher sur Internet, il y a des articles, il y a des choses qui sont très très intéressantes. Merci.
De rien. Merci. Merci. Ouais. Si, j'ai de l'eau.